Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir à partir de la deuxième lecture que nous entendrons dimanche prochain, dimanche fête de la Sainte Trinité. C'est un extrait de la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, les versets 11 à 13. Nous serons plus particulièrement attentifs à l'un des aspects de la communion du Saint-Esprit, qui est l'esprit de louange. Mais commençons par lire le texte. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix, tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Fin de la lecture. Cet extrait nous est donné pour la solennité de la Sainte Trinité. Nous le comprenons en particulier à cause de la formule de salutation qui clôture notre extrait. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, car nous avons une énonciation trinitaire à travers cette salutation. La formule est une évocation discrète de la compréhension de l'égalité divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car sinon on ne pourrait pas les placer à la même hauteur dans cette citation. On dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, s'ils n'étaient pas Dieu, eh bien, on ne les placerait pas ainsi les uns après les autres. S'ils n'étaient pas Dieu, il faudrait séparer les énonciations, justement, pour ne pas mettre ceux qui ne seraient pas Dieu au niveau de Dieu. Donc c'est à la fois très discret, mais en même temps très fort. Cette énonciation manifeste cette compréhension de la première Église, de la réalité divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la même logique que à la fin de Matthieu 25, par exemple, quand Jésus envoie baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'étaient pas Dieu, il faudrait séparer les uns des autres pour ne pas mettre au rang de Dieu ceux qui ne seraient pas Dieu. Les mettre au même rang est une affirmation de leur commune divinité. Cela étant dit, cette salutation manifeste également la distinction, la spécificité qui peut être attribuée à chacune des personnes divines dans leur commune unité. En effet, on nous parle de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Le titre de Seigneur était réservé au Dieu manifesté dans l'Ancien Testament, donc on affirme bien que Jésus est ce Verbe de Dieu qui s'est fait chair. En l'appelant Christ, on manifeste qu'il est celui qui est rempli de l'Esprit Saint. Et en parlant de la grâce qu'il donne, donc on va le présenter en fait comme celui qui apporte le salut. Voilà, c'est Dieu qui s'est fait chair, Dieu incarné, en tant qu'il nous apporte le salut. Il est celui qui avait été annoncé, rempli de l'Esprit Saint, et celui qui va nous donner la grâce, celui qui va nous conférer justement le salut. Nous étions prisonniers dans la mort et dans le péché, et c'est lui qui est le sauveur, c'est lui qui est le libérateur. Et voilà l'aspect tout particulier sur lequel on insiste. Jésus est celui par qui le salut nous est conféré, par qui le salut nous rejoint. En lui, nous sommes vainqueurs. C'est en lui que nous sommes vainqueurs. Ce n'est qu'en lui que nous sommes vainqueurs. On nous parle ensuite de l'amour de Dieu. Alors quand nous avons Dieu dit ainsi, il s'agit de Dieu le Père. C'est une abréviation, on pourrait dire, courante de l'Écriture, de désigner Dieu le Père simplement en disant Dieu, sans avoir besoin de préciser à chaque fois le Père, Dieu le Père. On insiste alors sur son amour. Il est la source de tout amour. Il est le flot jaillissant de tout amour. Et cela est très saisissant, en fait, si on y réfléchit, parce que cela vient nous dire quelque chose sur la réalité de la vie elle-même. Comment cela? En effet, on aurait eu envie, un peu intuitivement, de se dire que, en premier lieu, il y avait la vie, et que parfois, dans de bonnes circonstances, au cœur de la vie, l'amour pouvait apparaître. En désignant le Père comme la source de l'amour, eh bien on manifeste en fait une identité entre la vie véritable et l'amour. Ce qu'il y a de plus originel, c'est l'amour. Et toute forme de vie qui va se développer ensuite, justement, est ancrée dans cet amour jailli du Père. Il n'y a pas en fait de vie qui n'aurait pas sa source dans l'amour. Et de ce fait, la clé de compréhension de la vie est l'amour. Oui, l'amour n'est pas un accident qui pourrait se produire quelque part avec un peu de chance au cœur de la vie. L'amour est ce qui est la source de toute vie, ce qui est la clé de compréhension de toute vie, ce qui est du coup aussi la clé de développement et d'épanouissement. En contemplant la source dont je suis issu, l'amour de Dieu le Père, je comprends ma vocation. Cette origine dans l'amour du Père signifie que je ne suis pas fait simplement pour respirer, me nourrir, me reproduire et puis finalement mourir. Je suis fait, je suis venu à l'être pour aimer, étant issu de l'amour du Père. J'ai été fait pour aimer en tant que fils, étant issu de l'amour du Père. Enfin, on évoque l'Esprit Saint sous le signe de la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion, ça signifie ce lien qui permet une unité qui respecte la diversité. Là, je ne suis pas absorbé, je ne disparais pas dans une espèce de fusion où il n'y aurait plus mon identité. Non, la communion, c'est une union pleine et entière qui respecte la distinction des personnes. Et la communion, c'est un lien qui est en lui-même vivifiant. C'est-à-dire que c'est un lien qui va me communiquer la vie de Dieu, qui va permettre que cette vie même, cette force d'aimer de Dieu, soit en moi, qu'elle demeure en moi, qu'elle me remplisse. Vous voyez un peu à la manière dont l'air chaud d'une montgolfière va donner à la toile, justement, de prendre sa forme et de s'élever dans les airs. L'Esprit Saint, si on peut dire, va gonfler en moi cette puissance d'aimer en se communiquant à moi. La communion de l'Esprit Saint me donne un lien vivifiant avec cette vie qui nous dépasse. Elle nous dépasse et pourtant nous allons en vivre, nous allons en être remplis. Et en étant remplis, nous allons pouvoir aussi la partager, nous allons pouvoir en déborder, nous allons pouvoir la répandre autour de nous. Et l'une des expressions privilégiées de cette communion de l'Esprit Saint va être la louange. On va parler assez régulièrement de l'esprit de louange. Et la louange, la joie qui l'accompagne, est un des signes caractéristiques de la présence de l'Esprit Saint et de l'action de l'Esprit Saint dans les actes des apôtres. L'un des leitmotifs des actes des apôtres est cette joie issue de la présence de l'Esprit Saint qui déborde en louange. La louange, c'est l'expression, le débordement de se savoir avec Dieu, de se savoir aimé de Dieu, partageant la vie de Dieu comme fils, est capable justement d'en rayonner et d'en témoigner auprès des frères en humanité que Dieu m'a donné. La louange apparaît donc d'une part comme ce sentiment de débordement de cette vie, de cet amour qui a été répandu en moi. C'est une fontaine, on peut dire, débordante et qui va se manifester justement jusqu'à travers un chant, jusqu'à travers une expression vocale, corporelle de ce qui se passe en moi, de ce don que j'ai perçu en moi. Mais la louange va trouver encore un deuxième lieu d'apparition et d'expression qui, lui, est tout à fait inattendu. On ne l'aurait pas imaginé si on ne l'avait pas vu à l'œuvre. Et c'est le psaume qui va nous le manifester. Le psaume de cette fête, l'extrait, on pourrait dire, de ce qui nous est donné comme cantique dans cette fête, tiré du livre du prophète Daniel au chapitre 3. Je vous lis l'extrait que nous allons entendre. Il y a donc un refrain. « À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi louange et gloire éternellement. » Fin de l'extrait. Alors quand on entend ça, assurément on se dit, oui, c'est une belle expression de la louange. Cependant, quand on en examine le contexte, on en est très surpris. Ce chant de louange est prononcé par les trois jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego, alors qu'ils viennent d'être jetés dans la fournaise de feu ardent. On imaginerait qu'ils poussent ce chant une fois sortis de la fournaise, devant l'œuvre de Dieu, mais ils prononcent ce chant, ils prononcent ce cantique, alors même qu'ils sont plongés dans la fournaise. Cela nous révèle un aspect particulier de la louange comme arme dans le combat spirituel, de la louange comme arme au cœur de l'épreuve, de la louange comme arme au cœur même de ce qui devrait engendrer le désespoir. Comment cela ? À ce moment-là, la louange n'est plus directement l'expression de ce qui déborde de mon cœur, mais la louange est l'expression de la foi en la réalité de la louange éternelle de ceux qui contemplent la vision de Dieu, de ceux qui débordent de joie parce qu'ils contemplent le Seigneur en plénitude. Louer au cœur de l'épreuve, c'est affirmer dans la foi que nous sommes liés, que nous sommes de ce même peuple, de ceux qui voient Dieu déjà dans la plénitude de la vision béatifique. Et donc, que par cette union, je peux voir descendre dans mon cœur la louange qui n'y s'y trouve pas actuellement, mais faire descendre dans mon cœur la louange qui existe auprès de Dieu. Cette louange qui existe auprès de Dieu peut descendre dans mon cœur parce que nous sommes du même peuple. D'une certaine manière, la louange au cœur de l'épreuve crée une espèce d'appel d'air pour que le souffle de la louange éternelle auprès de Dieu descende jusqu'à moi, et vienne me remplir. Et c'est à ce moment-là alors que, comme fruit de cette louange commencée dans l'épreuve, je me retrouve rejoint par la louange et l'éclat de cette louange qui existe de toute éternité devant Dieu. Dans le livre de Daniel, cette louange au cœur de l'épreuve, au milieu de la fournaise, est associée à une action de l'ange du Seigneur qui souffle comme une fraîcheur de brise et de rosée sur les trois jeunes gens, si bien que le feu ne les touche aucunement et ne leur cause ni douleur ni angoisse. Et c'est de là que jaillit de leur cœur ce que les circonstances ne donnaient pas, une action de grâce, une glorification et une bénédiction de Dieu, alors même qu'ils sont au cœur de la fournaise. Donc retenons cette particularité de la louange, elle n'est pas seulement débordement du sentiment d'être aimé de Dieu, mais elle est aussi, et elle peut être aussi au cœur de l'épreuve, cet appel d'air pour faire descendre dans mon cœur la louange qui n'y est pas encore, mais qui existe éternellement auprès de Dieu. Et cette louange peut donc me saisir si je l'appelle, si je la désire, si je la fais descendre en moi. Voilà l'un des aspects tout particuliers de la communion née de l'Esprit Saint. Je vous souhaite de bons échanges.